Alors, la question qu'on essaie un peu de soutenir là, finalement, c'est qu'est-ce qui introduit de nouveau la clinique du transfert? Puisque si on veut parler de la clinique, bien sûr, on a recours à la façon dont on va parler des symptômes, la façon dont ils vont s'inscrire dans le transfert, et toute la question est celle de ne pas en rester uniquement à cet œil qui regarde, qui pense, parce qu'on pense finalement avec ce qu'on voit, et à ne pas rester que observateur et décrivant ce que l'on voit. Et pourtant, parce que c'est ça qui est aussi important à dire, et pourtant ça fait partie, ça, de toute description, toute clinique habituelle. Alors, ce qu'il importe donc de ne pas oublier, c'est que si ça fait partie, le fait de ce que l'on peut penser, en écoutant, en parlant, en se souvenant, si on a besoin de notre pensée, si on a besoin de notre mémoire, néanmoins, ce qu'introduit la découverte de l'inconscient, et c'est ça là, le nouveau qu'introduit Freud, même si il reste, ou du moins il a été transmis de lui, le fait que on pouvait tout à fait rester dans une conception de l'inconscient comme du refoulé secondaire, c'est-à-dire quelque chose qui a été plus ou moins pensé ou qui n'a pas été, bon, et qui est en quelque sorte mis de côté. Vous savez qu'avec Lacan, notamment, se pose la question, notamment, de quelque chose d'autre, de ce qu'il appelle l'existence de l'autre, grand A. Cette première lettre, dit-il, qui sans doute lui a été confiée, laissée, pour autant que la deuxième, c'est celle de la Bible, et donc le B, si le B a été utilisé, dit-il, de façon tout à fait importante à un moment d'un séminaire encore, c'est sans doute parce qu'il restait cette lettre A, qui est à la fois le grand autre et qui est aussi une invention de Lacan, qui est l'objet petit a. Et je crois que le grand A, tel qu'il va le nommer lui, cette existence de l'autre, et d'autre part, ce qu'il va appeler l'objet petit a, qui dépasse l'objet partiel. C'est pas étranger à l'objet partiel, mais ça apporte quelque chose de plus, selon qu'on le considère dans le réel, dans le symbolique, dans l'imaginaire, plus particulièrement. Eh bien, on va essayer de s'en approcher à nouveau ce soir, on pourrait dire comme il le dit lui-même, encore. Et si on parle, si on essaie de parler plus exactement, si on bavarde, hein, si la psychanalyse est aussi une pratique de ce bavardage, c'est parce qu'à un moment, il est attendu que, au-delà de ce qui est plus ou moins ce qui sort par la bouche, les mots, il est attendu que quelque chose d'autre puisse soudainement, c'est ça la question du transfert, soudainement apparaître. Et ce soudainement renvoie notamment à deux types d'objets, plus particulièrement, c'est l'objet regard et l'objet voix. Alors, si on parle d'objet dans ce sens-là, on dira qu'on est du côté de l'objet du fantasme. Si on parle de l'objet de la pulsion, on dira la pulsion scopique et la pulsion invocante. Alors, je ne vais pas trop faire de référence théorique. Ce que je voulais seulement introduire, c'est reprendre un peu ce que nous disions il y a 4 semaines, la fois précédente, à savoir que ce qu'introduit de nouveau, non pas tellement la psychanalyse, dans la transcription de ce séminaire, Jacques Almiller dit la psychanalyse, or quand on entend ce qu'a dit Lacan, c'est quand on a le CD, Lacan ne dit pas la psychanalyse, Lacan dit l'inconscient. Alors on ne va pas non plus faire un procès, c'est pas le problème, mais si on remplace effectivement la psychanalyse, si on remplace l'inconscient par la psychanalyse, il y a aussi un glissement là, sans doute qui est excessif, puisque la psychanalyse c'est une praxis. Alors qu'est-ce que c'est que la psychanalyse à partir de ce moment-là, hein, on parle de quoi? Alors si on parle de l'inconscient, c'est déjà autre chose. Et lorsque Lacan parle de ça, il insiste bien sur le fait que l'inconscient introduit quelque chose qui n'a jamais été jusque-là, perçu, on va dire perçu, pas, surtout pas pensé, perçu. Et c'est ça le nouveau en quoi consiste le discours analytique. Et disant ceci, et c'est ça vraiment la clinique, c'est-à-dire le moment où quelque chose advient, il propose, ça lui vient comme ça en parlant, hein. Je n'ai jamais assisté au séminaire de Lacan véritablement, mais je pense qu'il devait parler essentiellement. Il lui vient ceci, je parle sans le savoir. Je parle sans le savoir. Évidemment, ce n'est pas le moulin à parole quand il dit le je, et il insiste bien, le je, à ce moment-là dont je parle, ce sujet du verbe, c'est un effet du dire et non pas du dit. En quelques mots, est annoncée la couleur, on ne peut pas être dans la pensée, on ne peut pas être dans la compréhension, et pourtant, néanmoins, il a bien fallu s'approcher par la pensée et par la compréhension. Donc c'est un peu ce mouvement, la dernière fois je parlais un peu de mouvement de danse, c'est un peu ça, c'est un peu ce mouvement-là qu'à nouveau on va essayer de reprendre ce soir. Hein. Je parle sans le savoir, c'est-à-dire je parle avec mon corps, c'est pas mon corps qui parle, c'est autre chose, ça serait plus du côté peut-être de l'hystérie. Je parle avec mon corps sans le savoir, et ceci sans le savoir, c'est ça qu'il dit sur le CD, c'est pas ce qu'il y a dans la transcription de Miller, mais j'insiste bien, on n'est pas là du tout pour savoir qui a raison, qui a tort, s'il aurait fallu, c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui est important c'est quand même ce qui sort de la bouche de Lacan à ce moment-là. Alors en plus, quand on l'entend, je pense qu'on entend encore autre chose, bon, ben ça c'est tout l'intérêt, et il ajoute, je pense donc plus que je ne sais. Voilà. Et je trouve que là, effectivement, il y a quelque chose qui nous arrête, qui nous interroge. Pour autant que, bien sûr, quand on se met à parler, on parle à partir de ce qui vient, c'est ça qui est souhaité, mais ce qui est attendu par cette association qui, justement, n'est pas libre, même s'il est dit qu'elle est libre, elle n'est pas libre, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir un déroulement qui va se faire, d'une certaine façon, des enchaînements, mais toute la question est celle de savoir ce qui va faire qu'à un moment... Alors, un effet de signifié, ce qu'on appelle un mot, c'est-à-dire pas un signifiant, le signifiant comme effet de signifié, c'est-à-dire du sens, de la signification, va à un certain moment, en quelque sorte, perdre ce pouvoir de signification et entrer en articulation avec un autre signifiant, qui lui-même n'est pas fixé par une signification, et qu'entre ces deux signifiants, c'est bien signifiant, on n'est pas dans le sens du tout, immédiatement, soudainement, comme famille et millionnaire, mais ce n'est pas dans le sens de la famille et du millionnaire, même s'il y a toutes sortes de choses qu'on va pouvoir penser après, immédiatement il y a une sorte de précipitation qui fait qu'apparaît cet être de langage, cet être de pure signifiance, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'être, cet être de pur signifiant, cet être, ce qu'on disait la dernière fois, cet être non étant, de pur signifiant, parce qu'au moment où ça apparaît, évidemment, on ne peut pas le comprendre, qui est familionnaire. Et donc, à partir du moment où il apparaît, où il sonne, où entre le signifiant famille et le signifiant millionnaire, dans cet espace nouvellement créé, du fait que ces deux signifiants, où il y a bien sûr quelque chose qui va permettre ce rapprochement, c'est-à-dire certains phonèmes, hein, famille, millionnaire, il y a quelque chose qui n'est pas loin, mais ça va s'articuler de telle façon que le mouvement part, il se rencontre, et à ce moment-là, ça donne cette création qu'est l'esprit du mot d'esprit qui passe, qui crée cette nouveauté. Et alors, dès que c'est créé, vous savez ce qui se passe, immédiatement, la pensée apparaît, c'est-à-dire que le refoulement prend possession de la création, et le sujet qui est apparu, ce esbarré, correspondant à cette rencontre entre les deux signifiants, signifiant présente le sujet pour un autre signifiant, immédiatement, à ce moment-là, on pourrait dire le sujet n'est plus là, c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment particulier où quelque chose est apparu. Après, plus rien n'est comme avant, parce qu'il y a eu cette rencontre, c'est-à-dire qu'entre ces deux signifiants, dans cet espace, on pourrait dire entre le S1 et le S2, si on voulait prendre des références de Lacan, mais il n'y a pas besoin forcément, l'objet petit a, constitué comme perdu, a résonné, sonné, quelque chose a sonné, quelque chose a été entendu, pas spécialement avec les oreilles, et pourtant, c'est pas non plus sans les oreilles, quelque chose qui est cette rencontre particulière qui fait que le symbolique a pris en charge le réel. Et ça sonne et soudainement résonne quelque chose, un peu comme quand on entend la musique, une note et une autre note, et la deuxième note redonne autre chose à la première, il y a un effet d'après-coup immédiat et même un effet d'avant-coup puisque la note qui va apparaître ne sera pas la même si elle suit évidemment telle note. Hein, vous savez toute la dimension de la tonalité. Donc c'est ça que l'on essaie de ne pas oublier puisque c'est ça qui est au cœur, même si on ne peut pas définir ce que c'est évidemment, qui est au cœur, qui est en direction de l'inconscient, hein, l'unbewusst, qui n'est pas du non connu. Hein. Ce sera peut-être du non reconnu, ou alors le un allemand du côté du manque de, hein, unbewusst, insu, mais vraiment apprendre. On ne sait pas trop parce que dès qu'on arrive à prendre les mots au sens, on les connaît. On est déjà parti dans le refoulement. C'est ça qui est assez. Dès qu'on se met à vouloir expliquer, parler, on est à côté. Autrement dit, c'est quelque chose effectivement qui s'entend. Et toute la question est celle de savoir ce qui fait qu'à un moment, ça peut apparaître. Alors, comme c'est assez difficile, et que finalement, c'est ce que je propose. J'ai rien contre, mais enfin, ce que j'essaie de proposer comme ça la discussion, c'est ces moments-là dans ce que j'appellerais la clinique du transfert, où quelque chose effectivement de nouveau apparaît. C'est un moment de rupture. C'est pas évident de trouver ça avec Freud, parce que Freud, d'une certaine façon, mais en continuité, il n'y a pas de rupture véritable entre, on pourrait dire, l'inconscient, le préconscient, le conscient, le préconscient d'un côté, et l'inconscient, il y a quasiment une continuité. Vous savez que c'est pas la position de Lacan. Lacan suppose qu'il y a une rupture entre le conscient et l'inconscient, c'est pour ça qu'il va parler du réel de l'inconscient, l'inconscient c'est le réel, hein. C'est donc, on est complètement dans quelque chose qui s'ouvre autrement. Alors, pour un peu approcher ça finalement dans une clinique et pour montrer que la clinique c'est justement quelque chose qui dépasse, mais il n'y a pas non plus à le récuser, mais enfin c'est pas ce que je voudrais introduire. Ce que je vais essayer d'aborder ce soir, c'est ce que c'est que la clinique du transfert, et justement je vais essayer de l'aborder pas du tout à partir de quelqu'un qui vient parler à un analyste. à partir de ce qui a pu se passer, par exemple, même si peut-être tout à l'heure je parlerai de quelque chose qui est survenu dans ma pratique à un moment, il y a une quinzaine d'années, avec un jeune garçon. Mais ce que je voudrais essayer de montrer pour approcher ce nouveau, c'est que ce nouveau-là, il est en rapport avec le savoir de l'autre, on va dire, hein, ça dépasse la personne de quelqu'un. Il s'agit bien de ce savoir de l'autre, justement, grand A, et que cette dimension du transfert, qui donc, je reviens à nouveau là-dessus, existe au savoir qui est celui de la pensée, c'est-à-dire que quand je pense, je ne peux finalement penser que ce que je peux me représenter. Je suis dans le monde de la représentation, je vais un peu vite, mais c'est quand même ça. Je suis dans le monde de la signification, je suis dans les effets de signifier du signifiant, je ne suis pas dans le signifiant. Le signifiant est absolument impensable, hein, en tant que tel. Et donc, dès que je suis dans ce registre habituel où il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, où je peux comprendre toutes sortes de choses, où c'est indispensable de passer par là dans cette libre association, je comprends, je retrouve des souvenirs, il se passe toutes sortes de choses, je comprends, j'explique les rêves que je fais, etc. Il y a toutes sortes de choses qui apparaissent. Mais, et c'est là la question, je reste dans un registre qui est celui de l'être. De l'être, et bien sûr apparaît d'emblée la dimension du maître, on l'écrit comme on veut, c'est-à-dire que se pose la question de quelque chose qui renvoie à ce discours de la demande adressée à l'autre, que ce soit la demande de l'autre ou adressée à l'autre, ou l'autre qui demande. C'est-à-dire qu'on est dans cette dimension de la demande, et bien sûr que le désir va pouvoir s'articuler à cette demande, mais vous savez que c'est ce qu'on appelle le désir inconscient, et que Lacan notamment a proposé qu'il y avait autre chose dans la dimension du désir, qu'il y a justement cette énigme du désir, et c'est ce versant-là de cette énigme du désir X que nous essayons de, donc non pas du tout de penser, parce que c'est impensable, mais en direction de laquelle nous essayons de nous approcher. Puisque la grande énigme, on pourrait dire, qui est au cœur du transfert, c'est qu'est-ce qui va faire que cette dimension de l'autre, existence de l'autre, existence insaisissable de l'autre, soudainement apparaissent lorsque un être, on va dire parlant, cause, bavarde, est affecté par quelque chose, il ne sait pas ce que c'est, mais ça le torsionne, il est torturé comme il peut, il fait comme il peut, toutes sortes de grimaces, toutes sortes de contorsions pour essayer d'en dire quelque chose, et en fait c'est vraiment un dire, c'est pas un dit, c'est un dire, et on ne pourra jamais dire c'est ça, c'est un dire particulier, ce dire de l'autre qui, en quelque sorte, a présidé à quelque chose qui est ce dans quoi il est, c'est-à-dire toute cette dimension du fantasme, la structure du fantasme. Donc, je reviens, on part donc de l'idée du fait que dès que l'on pense, que l'on échange, que l'on développe, qu'il y a quelque chose qui se déploie, on est dans la dimension de la représentation qui sera plus ou moins consciente, évidemment, ça va être plus ou moins, on va pouvoir retrouver des choses même qui pouvaient être refoulées, au sens du refoulé secondaire, mais on est toujours dans la même direction, et on pourrait dire que dans cette question-là, il n'y a pas ce mouvement dont on a parlé la dernière fois du rhythmos grec, c'est-à-dire que même si ça coule, règne, ça coule toujours un peu de la même façon. Et en fait, ça ne coule pas en fait véritablement comme étant animé par le fait qu'il y a en nous quelque chose, une dimension pulsionnelle qui essaie d'apparaître. C'est dans une rupture de ce déplacement, en fait, plutôt que de dire couler, il faudrait dire, c'est ce que Freud a appelé le déplacement, nous passons comme ça, avec les mots, avec les représentations, au niveau de tel ou tel élément vers tel autre, et nous continuons à avancer comme ça. Cette dimension tout à fait importante, hein, j'insiste, du bavardage, de ce qui nous permet de communiquer, plus ou moins savamment, fait partie du discours habituel. Que ce soit le discours psychologique, le discours universitaire, le discours, même le discours du maître, on est dans une certaine représentation particulière et il va y avoir plus ou moins de demandes dans ce discours qui s'adresse à l'être. Alors, je ne vais pas trop développer ça aujourd'hui parce que je voudrais un peu avancer. Mais enfin, disons que c'est ce discours de l'être. Et ce qui nous intéresse, c'est le moment où le par-l'être, cet être parlant, va soudainement rencontrer quelque chose qui fait qu'il va être dans cette position de la mise, d'une mise en direction de cette existence de l'autre, de cet autre. En sachant que l'autre, dans ce cas-là, c'est l'autre au sens du symbolique, et que ce qui est au cœur du symbolique, c'est évidemment le manque, c'est le manque de savoir. Et qu'il y a au cœur du symbolique, c'est ça qui est important. Freud a démontré ça très tôt dans le rêve, ce point de Tunerkant, hein, qui est rapproché de l'Urverdrängt, ce point de non connu, non reconnu radical. Il y a donc au cœur du symbolique quelque chose qui peut faire que si ce quelque chose est touché, comme le peintre qui touche la toile, si ce quelque chose est touché, et là c'est le caractère insaisissable pour le penseur, on peut s'en approcher en se mettant en direction du peintre qui touche la toile, et quand le peintre touche la toile, c'est autant lui qui touche la toile que lui qui est touché par cette dimension de l'autre, cet espace-temps qu'est la toile. Alors, nous en arrivons donc à ce moment particulier qui ne va pas de soi. Et pour l'approcher, je propose de revenir à ce qui s'est passé dans l'histoire du savoir, dans la mesure où nous touchons bien sûr à cette dimension du savoir de l'autre, c'est ça qui est en jeu dans le transfert, c'est ça qui est en jeu et c'est ça qui fait que la découverte de Freud par le biais de ce savoir de l'autre, de cette autre scène, dont il s'approche dans son interprétation des rêves, dépasse le savoir que peut représenter, bien sûr, la personne. Ça ne veut pas dire que ce qui est en jeu par le savoir de la personne n'ait pas de valeur, mais l'analyste a à se mettre, et ça ne va pas de soi, en direction de ce savoir, de l'autre, pour autant donc que ce qui fait le ressort de ce savoir, c'est l'existence d'un trou réel dans le symbolique. Donc pour avancer dans cette perspective, beaucoup plus que en développant l'histoire qui est en jeu dans un, comme on le dit un peu rapidement, dans un cas clinique, je vous propose de revenir à ce qui est en jeu dans le savoir au moment où, après le Moyen Âge, après la Renaissance, mais en fonction de ce retour qui est cette renaissance aux données grecques, optiques, et de ce qui va être mis en jeu comme découverte par le biais des mathématiques, de la musique, de la peinture, de la perspective, je vous propose de revenir à ce moment, à ce qui a lieu au XVIIe siècle, plus exactement à la charnière du XVIe et du XVIIe, et au XVIIe siècle. Pour autant que dans la perspective du transfert, il est possible, c'est ce que je vais essayer d'avancer, il est possible de supposer que la découverte de Newton, d'Isaac Newton, à savoir ce qu'il va conceptualiser comme étant la gravitation, cette loi qui est la gravitation universelle, est déjà présente, et sans doute fallait-il qu'elle soit déjà présente, chez notamment Galileo Galilei, 60 ans plus tôt, même 80 ans plus tôt, pour autant que cette loi de la gravitation universelle, elle dit que c'est la même force qui est à l'origine du mouvement qui fait tourner les planètes, que celle qui intervient dans la chute des corps. Autrement dit, ce qui est en jeu dans la révolution, au sens de tournée des planètes, au niveau du Saturne, est du même ordre, c'est même la même force, c'est une constante qu'il écrit avec des lettres, c'est du même ordre que celle qui est la cause de la chute des corps ou celle qui en rend compte. C'est assez étrange à penser parce qu'on pourrait penser justement que c'est quelque chose du même ordre. Ça n'est pas quelque chose du même ordre. Alors pour avancer, revenons donc au point de départ, le système de Ptolémée, mis en place donc par les Grecs, qui dit qu'il y a un géocentrisme, c'est-à-dire qu'il y a au centre du monde la Terre et que tourne autour de cette planète qui est la Terre les autres planètes. Je vais vite pour arriver à ce que l'on appelle la révolution copernicienne, qui dit que au centre, ça n'est pas la Terre, c'est le Soleil. Et puis, Kepler, après, qui va dire que le centre n'est pas tout à fait central, ça tourne toujours, parce qu'on est toujours dans le Saturne, là, dans la révolution, ça tourne, mais ça tourne selon un mouvement qui n'est plus, on va dire, facilement accessible, ça tourne autour d'un mouvement qui est un mouvement d'ellipse. Et puis comme ça, on arrive à Galileo Galilei qui, lui, en fait, est animé par quelque chose, on pourrait dire qu'il est mordu par deux choses. D'une part, le mouvement des planètes qu'il va voir à partir de ce qu'il regarde dans les lunettes. Ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, dans le même temps, il est animé par ce qui intervient dans la chute des corps. Il fait des expériences du haut de la tour de Pise, il est à Pise, même s'il va partir à Florence, même s'il est s'il est employé en quelque sorte par la République de Venise, il est à Padoue et il fait donc des expériences du haut de la, il est à Pise. Et il va faire, du haut de la tour de Pise, des expériences sur la chute des corps, et il va découvrir, ce qui n'allait pas de soi, que, quelle que soit la masse, la vitesse est identique. Alors, on voyait qu'il y a donc, si on suit ce que je viens d'évoquer, si on suit au sens du discours, il y a donc une révolution, c'est-à-dire quelque chose qui tourne. Mais toute la question est celle de savoir dans quelle mesure cette révolution n'est pas qu'une révolution qui conserve le centre, parce que si c'est une virée, si c'est une volution, si c'est quelque chose qui fait retour toujours en fonction d'un centre, nous ne sommes pas dans la subversion. L'important, c'est d'arriver à se mettre en direction de ce que j'ai appelé tout à l'heure le manque dans le symbolique, le manque de savoir, c'est-à-dire le fait que justement il n'y a plus quelque chose qui fait que ça tourne, mais que, et c'est ça qui va nous intéresser, mais qu'il y a, s'il y a le ça tourne, il y a aussi le ça tombe. C'est ça la chute des corps, la loi de la gravitation. Et comme va le dire Newton en 1680, quand il va parler de cette loi de la gravitation universelle, c'est la même force qui est à l'origine du mouvement du Saturne que celle qui est à l'origine du Satan. Autrement dit, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a eu un moment où il est apparu que non seulement il y avait le Satombe, mais que le Satombe pouvait en quelque sorte être substitué au Saturne. Et ça, c'est une subversion radicale, parce que si le Saturne, comme on peut le voir là dans cette page du Monde d'hier avec les nouveaux progrès actuellement, peut toujours se représenter à partir du « je pense », c'est-à-dire qu'on peut toujours imaginer par cet œil, dont j'ai évoqué tout à l'heure la présence, cet œil qui pense, le mouvement qui tourne autour d'un centre, avec des distances différentes, avec un mouvement qui n'est pas forcément, effectivement, un mouvement très simple à définir. Il y a autre chose, et ça nous intéresse, celui du Satombe, ça nous intéresse parce que ce Satombe ne peut pas s'écrire à partir d'une représentation. Il aboutit, le Satombe, à une écriture, à un écrit de lettres, à une formule. Donc vous voyez qu'on est là, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, dans cette rencontre, par le biais du Saturne et du Satombe, au fait que, dans une rencontre, qui est qu'il y a bien sûr une représentation, mais qu'il y a aussi un au-delà de la représentation qui conduit à des lettres, et ça va être en gros 5 lettres, et un chiffre qui va donner une constante, et que ces lettres vont pouvoir être, à l'aide d'elles-mêmes, constituant un savoir, un réel du savoir, qui va pouvoir conduire ailleurs et au-delà de la représentation. C'est ça qui est en jeu. Alors évidemment, ce qui est assez étrange, mais qui est important pour nous, c'est que ces lettres nous approchent, bien sûr, de la dimension de l'inconscient. Et Galileo Galilei, même si Freud n'a pas encore énoncé et découvert l'inconscient, nous sommes en 1609, quand il fait ses observations avec la lunette, quand il observe Saturne, il n'est pas en savoir sans avoir une certaine intuition de ce que nous disons, mais aussi sans avoir une certaine intuition de la subversion qui est en jeu, puisqu'il va écrire ce qu'il découvre. Il va l'écrire à partir de 36 lettres qui sont amalgamées. Au point que ceux qui vont recevoir ce savoir, à qui il envoie ses lettres, bien sûr, vont être récepteurs de quelque chose qui eux-mêmes est en train de les intéresser, c'est-à-dire que c'est par exemple Mars qui va être considéré comme étant, je crois que c'est Kepler, c'est Mars qui va être considéré comme étant ce dont il s'agit, alors que le jeu de lettres qui échappe justement à une signification précise, c'est ça son intérêt, correspondait au fait qu'il y avait là, les lettres correspondant au fait qu'il s'agissait de Saturne. Il y avait l'écriture de Saturne sous forme d'anagramme, c'est-à-dire qu'il y avait des lettres qui étaient perdues, qui étaient noyées, et bien sûr ça nous fait penser à De Saussure qui s'est intéressé aux anagrammes saturniens, qui a laissé ça dans son tiroir, et à partir de la peur, sans doute, qu'il a eue, puisque Il a sans doute découvert que dans ces anagrammes saturniens, il y avait les lettres qui correspondaient, ces lettres étaient clairsemées, parsemées, qui correspondaient aux lettres d'un dieu, et que rencontrant ces lettres, alors, ce qui était important, c'est qu'il pouvait sans doute se mettre en direction de ce savoir de l'autre, mais il n'avait pas de garantie. Et devant cette absence de garantie, il a eu peur, et il a trouvé autre chose, c'est toute sa découverte de la linguistique avec les deux axes, l'axe de succession et l'axe de condensation, contemporanéité, et notamment cette définition qu'il va apporter, à savoir ce qu'il va appeler l'arbitraire du signe, c'est-à-dire qu'il y a un code qui est arbitraire entre le signifiant et le signifié, mais il n'a pas pu aller jusqu'où nous pouvons aller, c'est-à-dire sur le fait que ce qui est important, c'est le moment, c'est pas tellement qu'il y a l'arbitraire, c'est le moment où du signifiant insaisissable vient infiltrer le signifié, et dans cette rencontre particulière que j'évoquais tout à l'heure par rapport à ce familionnaire, soudainement apparaît justement ce « je parle avec mon corps » que j'évoquais, sans le savoir, et « je dis toujours plus que je n'en sais ». Alors j'ai fait un lapsus, j'ai dit « je pense », c'est « je dis toujours plus que je n'en sais », pour autant qu'il y a un « dire » qui dépasse le dit, à ce moment-là, par le biais de ces lettres. Évidemment, Galilée n'était pas sans savoir que ce qu'il avait découvert sur les planètes, et ça va être dans l'observation de la Lune, qui va être prise pour Vénus, elle, dans cette observation de la Lune, dont il va rendre compte sous forme de vers latin, où à nouveau il va y avoir de façon métaphorique une appellation de la Lune particulière qui justement va porter à conséquence puisqu'elle va être prise pour une autre signification, on va penser à une autre planète. Il va découvrir des taches sur la Lune et le génie, ça va être que en fait ces taches vont lui sembler comme devoir être interprété comme des tâches qu'il peut rencontrer sur le sol terrestre et sur le fait que ces tâches correspondent à des densités différentes, c'est-à-dire qu'il y a par le biais de ces tâches quelque chose qui correspond à des hauteurs différentes, c'est-à-dire que la Lune, non pas étant tachée, ça c'est le reproche qu'on lui a dit, qu'on n'avait pas le droit de dire qu'une créature n'était pas parfaite, puisque le créateur du coup était imparfait. Ce qu'il voit sur la Lune, c'est le relief, et le fait que tout n'est pas sur un même plan. Sans doute, Galilée était-il pris par la perspective pour en arriver là, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, voilà où nous arrivons avec Galilée, et avec sa découverte, mais aussi, c'est ça qui est important, ce qui anime Galilée, c'est sans doute pour ça qu'il n'en reste pas aux connaissances habituelles, il est animé par ce qui tombe. Il ne peut pas arriver à formuler, mais on pourrait dire que c'est Newton qui va passer, ou qui va entendre, qui va être le passeur de ce que le passant Galilée lui-même, sans le savoir, énonce dans ces deux types de connaissances qui, en fait, se rencontrent au moment où Newton va lui-même formaliser ça. Alors, bien sûr, je vais m'arrêter là-dessus et après on pourra parler comment cela peut se rencontrer dans le transfert. Pour autant que le transfert, ça touche à sa savoir de l'autre et à cette émergence soudaine dans l'autre de quelque chose qui, tel que nous venons de dire, correspond à sa tombe. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a quelque chose qui tombe, Ça veut plutôt dire que la pensée elle-même, le penseur, la représentation n'est plus unique, il y a autre chose. Et comment peut donc se jouer ceci dans le transfert? Je vais assez rapidement donner les éléments dont cette dimension, parce que c'est une dimension, cette mention particulière du dit, qui renvoie à un dire, a pu apparaître dans ma pratique il y a déjà pas mal d'années, dans la rencontre d'un jeune garçon, appelons-le Julien, qui était amené par ses parents parce qu'il avait des symptômes, énurésie, encoprésie, ça c'était une chose, mais aussi il était tout à fait instable. Et alors que, tout le monde étant dans mon bureau, la mère racontait, et notamment avec une certaine jouissance, ça pouvait s'entendre, les bienfaits de la médecine qui était, et de la chirurgie qui était intervenue, parce que Julien est né avec une malformation rénale, et donc il a passé de nombreux moments à l'hôpital. À un certain moment, c'est ça la dimension du Satan, pris sur un mode métaphorique, à un certain moment, mais tout ceci, tout ce dont je vous parle là, s'est élaboré progressivement. J'ai pu y revenir dans l'après-coup en parlant, en contrôle, et puis en parlant dans différents moments particuliers. À un moment donc, alors que la mère parle, en fait, quelque chose va faire que, pour autant sans doute que je n'étais pas pris dans le Saturne de cette jouissance qui était évidente, sous couvert de remerciements, elle donnait la satisfaction qu'elle avait d'avoir interrogé ainsi par le biais de son enfant le savoir de l'autre, jusqu'où il pouvait aller, et de cette réponse, en fait, est passé sans doute dans sa voix quelque chose qui fait qu'à un moment est sorti par ma bouche, je ne sais plus comment, parce que je pense que c'est au-delà du mot, mais est sorti quelque chose qui mettait en jeu la dimension du secret, quelque chose qui pourrait se dire de la façon suivante, Julien n'avait plus de secret, parce qu'effectivement, durant ses hospitalisations, et c'est ce que disait la mère, il ne cessait d'être observé, examiné au niveau de son corps. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est que Julien immédiatement s'est arrêté, et que son regard et mon regard, j'insiste sur le mot regard, se sont rencontrés, et que la mère, à ce moment-là, elle-même, s'est demandé ce qui était en train d'apparaître. La séance, qui était en fait véritablement une séance, cette première rencontre, s'est arrêtée. Nous avons défini les conditions du travail, qui elle-même était définie, puisque tout tournait autour de cette dimension de secret. Et en partant, Julien m'a dit « je te dirai ». Et en passant par une représentation terrible, monstrueuse, appelons ça un dragon, il a terminé son travail par une phrase « Julien est son dragon ». Quelque chose est allé à sa rencontre et il est allé lui-même à la rencontre d'un certain type de réel qui était prise en charge par l'imaginaire, jusqu'à ce que ce savoir imaginaire qui avait une énorme importance pour lui, qu'il représentait sur des dessins, des arbres, qui représentait l'hiérographie intraveineuse, des arbres sans feuilles évidemment, jusqu'à ce que le dessin progressivement advienne comme étant beaucoup plus clair, on va dire voyant, clairvoyant, les couleurs apparaissaient. Et donc, Julien et son fantôme est venu dire que, à ce moment-là, il pouvait accéder à une autre dimension et que c'était sa nomination d'avoir rencontré un autre type de réel, lié au symbolique, à un certain moment, autre type de réel sans doute qui n'était pas sans rapport avec quelque chose de son apparition dans le moment, dans cette première rencontre. On peut penser que s'il n'y avait pas eu ce moment,
C'est une supposition, bien sûr, puisque l'on touche à cette existence de l'autre dans le discours de la mère, qui est venue toucher cette existence de l'autre par le biais de ce regard de l'autre, qui était un regard apaisant, non plus le regard terrible de la science porté sur lui, qui est survenu soudainement, et auquel il a répondu à sa façon par un « je te dirai ». Puis je m'arrêtais sur le fait tout à fait récent, ce que je viens de rencontrer avec une fille de 5 ans tout de suite là, avant de venir, c'est-à-dire qu'ayant fait un dessin et voulant écrire le nom, au moment où après avoir écrit le nom du père, elle écrit le nom de la mère qui est là présente, elle demande à la mère de lui dire comment ça s'écrit, et en fait sa mère lui dit « mais on verra tout à l'heure, écris », et je lui dis « mais tu peux écrire, ce qui compte c'est pas du tout ce qui est attendu sur le plan des règles de la grammaire, tu peux écrire », et en fait elle me montre, et ce qu'elle me montre c'est que le nom de sa mère, il y a toutes les lettres, mais que ces lettres sont dans un autre ordre, que l'ordre qui est prévu c'est quasiment un anagramme, une anagramme plus exactement, et je vais m'arrêter sur ce jeu de lettres. Voilà.